Salut les ornithos et bienvenue dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission qui aborde la culture rétro geek, présentée par votre serviteur, Johan Sega. Jingle. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, nous avions abordé les débuts de la société Sega entre la rencontre de David Rosen et de Masami Ishikawa, avec les grandes lignes et les bornes d'arcade à succès d'ores et déjà sorties. Aujourd'hui, nous allons aborder l'année 84 et le jour où Sega est devenue une société japonaise. En 1984, donc, les actifs américains de Sega sont revendus à Bally Medway. David Rosen a l'opportunité de racheter la division japonaise pour 38 millions de dollars. Lui et Hayao Nakayama, qui dirige une compagnie de distribution rachetée par Sega en 1989, cherchent des investisseurs. Le conglomérat CSK Holding, dirigé par Isao Okawa, répond présent. Nakayama devient donc le nouveau président de la nouvelle Sega et David Rosen reste aux États-Unis. Qu'est-ce que cela donne au niveau du matériel? Eh bien, en 1984, la SG-1000 est remplacée par la SG-1002 avec ses contrôleurs de jeux détachables et ses jeux sur Sega Card. Rappelez-vous ces jeux qui se jouaient sous format carte de crédit. La nouvelle console ne vivra malheureusement qu'une quinzaine de mois, mais elle pose les fondations des années à venir. Un certain Yu Suzuki, qui crée aussi le jeu Angwon en arcade avec son contrôleur révolutionnaire, où le joueur pilote sa moto à l'écran, installé sur une selle de moto mobile, signe ses premiers jeux. C'est d'ailleurs en arcade que la société fait son trou. Les bornes, appelées System 1 et System 2, voient naître des jeux comme Flicky, Pinfall 2 et Wonder Boy, pour ceux qui s'en rappellent. La plateforme arcade System 16 accueille de son côté une quarantaine de jeux, dont les légendaires Shinobi, Altered Beast et Golden Axe. Mais Sega n'a pas pour autant oublié les consoles de salon. Et oui, elle sort ainsi la SG-1000 Mark III au Japon en octobre 1985. L'année suivante, elle exporte sa machine en Occident sous le nom de Master System. Cette nouvelle console dispose de deux ports, un sur le dessus pour des cartouches et un autre pour des jeux de moins de 256 kilo-octets, stockés sur les fameuses cartes qu'on parlait tout à l'heure. La machine bénéficie de conversions de l'arcade ainsi que de nombreux titres originaux. La Master System accueille aussi quelques innovations, comme les lunettes 3D à cristaux liquides sorties en 1987 à brancher sur ce fameux port carte. La technologie est en avance sur son temps. La seconde moitié des années 80 voit naître des jeux comme Outrun, Choplifter, Space Harrier ou le fameux Alex Kidd in Miragworld. Ce dernier étant la réponse de Sega à la mascotte de Nintendo, Mario. Si en Europe et au Brésil, où la machine continue à se vendre aujourd'hui, la Master System tire son épingle du jeu, Nintendo détient près de 90% du marché dans le reste du monde. Pourtant, Sega a de bonnes raisons de rester optimiste. Sega concentre alors ses efforts sur l'Europe, où le marché de la console est plus ouvert, notamment grâce à la popularité des micro-ordinateurs. Sega décide alors de lancer elle-même sa console, le Mega Drive.
Mega Force, la playlist différente.
Rise from your grave.
La rubrique, le jeu du jour. Un jeu du jour qui me donne presque envie de chanter l'araignée, l'araignée. Dans sa toile, elle attend d'attraper les brigands, prends garde, car l'araignée est là. C'est toute ma jeunesse, ça, les amis. Et oui, nous allons parler de X-Men sur Super Nintendo. Je me vois encore assis devant ma télé le samedi après-midi, un paquet de pop-corn à la main en train de mater Spider-Man. Si un jour j'avais pu imaginer que je jouerais le rôle, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, c'est bel et bien ce qu'on nous propose ici, avec cette adaptation mettant en scène l'une des plus grosses vedettes des Marvel's Comics. Comme tous les super-héros, vous possédez bon nombre de facultés extrasensorielles qui vous permettent de sortir du lot, de la masse des gnomes qui peuplent notre bonne vieille terre. Du coup, vous vous êtes fixé un objectif, les amis, défendre la veuve et l'orphelin et mettre à mal tous les salopards de bas étage qui veulent s'emparer de la fortune des autres ou qui veulent plus simplement encore conquérir le monde pour le diriger. Grâce à vos oreilles super sensibles, vous avez eu vent qu'un complot se tramait quelque part et que la Terre était en danger. sautant dans votre tenue de combat, vous voilà parti dans une aventure complètement folle, dingue, qui vous entraînera dans des lieux incroyables où la mort sera souvent proche. Votre première mission consiste à désamorcer des bombes. Animé par un scrolling multidirectionnel, les différents tableaux de X-Men sont très agréables et bougent à la perfection. Et c'est tant mieux, car Spider-Man n'est pas au bout de sa peine. Pour arriver à atteindre ces foutues bombes, il faudra franchir bien des obstacles. Heureusement, vous êtes un dieu de la toile et rien ne peut vous résister. Je peux vous le dire. Dès qu'un ennemi se présente, un petit jet et hop, plus d'ennemis, c'est simple. Si ces toiles permettent à notre héros d'éliminer ses adversaires, elles lui permettent également de s'accrocher un peu partout et de parvenir en des lieux que jamais il n'aurait pu atteindre. Rapide et plein de rebondissements, X-Men est apparu en octobre 1992 sur la Super Nintendo. Un jeu que je vous conseille. Et maintenant, la rubrique Rétro-Astuces. Le premier jeu de la rubrique Rétro-Astuces, rien de moins que le célèbre Street Fighter 2 sur Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Comment jouer avec son double en mode un joueur? Ça, c'était un vrai défi à l'époque. Et son vrai double de vrai de la même couleur choisissait n'importe qui, sauf Ryu, puis arriver au stage de Ryu. Il faut qu'un pote vous rejoigne avec n'importe qui, sauf Ryu, ou vous-même si vous activez le mode de joueur. Gagnez le premier round, laissez-le gagner le deuxième round et faites un drum game avec les troisième et quatrième rounds. Puis faites continue et choisissez Ryu, alors vous vous battrez contre vous-même. À noter, le deuxième player ne doit pas faire continue et l'astuce marche aussi pour Ken. Sur NEC CD-ROM, une bien belle petite console japonaise. Shubibin Man 3, avec la deuxième manette, appuyez sur bas, 2 et sur run de la première manette. Vous pourrez regarder les dessins animés ou choisir votre stage sur ce magnifique jeu. Maintenant, les Lemmings, ces célèbres petites bêtes très bêtes, c'est le cas de le dire, qui tombaient dans tous les trous, que vous deviez aider à passer les obstacles. Sur Super Famicom, je vais vous donner un code pour prendre tout votre temps pour finir vos tableaux. Sur un Action Replay Pro, tapez 7E00-94-11, 7E00-93-11, et vous pourrez finir ce jeu dans le temps que vous voudrez. Sur la console de Sega Mega Drive, pour le jeu magnifique Thunder Force 4, dont d'ailleurs vous entendez certaines musiques dans les intros de cette émission, pendant le jeu, faites la pause, puis haut, droite, A, bas, droite, A, C, gauche, O, B, et vous constaterez alors le résultat, je vous laisse la surprise. Sur la console NES de Nintendo, Captain Skyhawk, vous pouvez passer plusieurs niveaux lorsque vous jouez en appuyant sur les boutons A et B, ainsi que sur la flèche vers le haut, tout ça simultanément. Ainsi, vous arriverez au niveau suivant. De plus, vous pouvez augmenter vos vies et posséder des armes plus performantes. Après avoir pressé la touche Start, attendez que les mots Captain Skyhawk apparaissent à l'écran. À ce moment-là, appuyez sur la flèche vers le bas et sur le bouton A. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine !